Bonjour à tous, nous recevons aujourd'hui Charles-Édouard Harangue, auteur de L'aventure par nature, 100 ans des scouts et guides de France, paru aux presses d'Île-de-France. C'est la maison d'édition des scouts et guides de France, donc c'est bien logique que ça paraisse dans cette maison d'édition. Charles-Édouard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc agrégé et docteur en histoire, et puis vous êtes spécialiste des mouvements de jeunesse. Donc vous avez déjà publié différents ouvrages sur la question, mais là évidemment avec le centenaire des scouts et guides de France, c'était important peut-être de refaire un petit peu une histoire. L'idée d'écrire ce livre, c'était une commande de l'éditeur ou c'était vous, ça vous taraudait déjà depuis quelque temps ?
Ça me taraudait depuis quelque temps, mais c'est vrai que l'éditeur voulait proposer un ouvrage qui présente en vis-à-vis, en fait, les scouts de France et les guides de France, ce qui n'existait pas. Il y avait déjà une histoire des scouts de France et une histoire des guides de France, mais là, c'était de raconter, d'expliquer aussi un peu l'histoire des deux mouvements, mais pas parallèle, c'est aussi les liens ou les différences entre ces deux mouvements.
Le premier titre, c'est L'aventure par nature. Alors c'est vrai qu'on s'attend sur un livre du centenaire à avoir écrit en gros centenaire ou les 100 ans. Là, c'est beau d'avoir un titre quand même qui donne aussi le fil rouge et l'axe en fait de tout cet ouvrage, parce que le scoutisme, c'est une vraie aventure. C'est le titre, c'est vous qui l'avez trouvé ? Comment ça s'est...
Alors, on a beaucoup réfléchi. C'est vrai que finalement, ce titre-là s'est imposé parce que, le scoutisme, c'est une aventure pour les jeunes qui sont membres, de dépassement de soi, d'aventure d'aller camper. Et puis, par nature, parce que c'est la nature du mouvement de proposer une aventure, mais aussi un petit jeu de mots avec la nature dans laquelle la méthode se déploie, en fait, qui est le cœur même de la méthode.
Un petit clin d'œil. Votre livre est très documenté, vous êtes historien, vous avez l'habitude, j'imagine, d'aller dans des archives, voir différentes sources. Là, vous avez eu accès à quel type d'archives, à quel type de sources ? Comment vous avez travaillé ce beau livre ?
Alors, l'idée, c'était effectivement de baser quand même cette histoire sur une documentation et non pas juste de raconter un peu ma façon de voir l'histoire. Donc, c'était vraiment de partir des sources. J'ai eu accès, l'avantage c'est que les deux mouvements ont conservé beaucoup de documents. J'ai eu accès à des revues, des manuels, des dessins, des circulaires internes, des programmes d'activités, mais également de nombreux témoignages parce que les anciens ont beaucoup à raconter. Et c'est toujours intéressant d'avoir leur avis, même s'il faut savoir prendre un peu de distance, mais c'est toujours intéressant d'avoir leur avis.
Alors, en plus, il y a au centre du livre quelques photos, donc ça c'est vrai que c'est chouette de voir vraiment en images. Ça frappe les esprits, hein, toujours les images, ça accompagne très bien le texte et tout ça se lit vraiment assez facilement et avec plaisir. Qu'est-ce qui vous a plu, vous, en travaillant ce livre-là ?
Oh, beaucoup de choses. D'abord de redécouvrir, on a beau être historien, on redécouvre toujours des choses, redécouvrir l'importance que ces deux mouvements ont pu avoir dans l'éducation d'un certain nombre de jeunes, et ils sont nombreux, l'importance que ces deux mouvements ont donné au développement personnel, mais aussi à l'engagement dans la société. L'intérêt pour la nature, on le sait, hein, il y a le campisme, il y a la randonnée, il y a tout ça, mais l'importance de la nature depuis les origines. Une vraie réflexion aussi du côté des filles sur qu'est-ce qu'être une fille, une femme. Et donc j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Vous parliez du cahier photo du centre du livre. C'est vrai que le scoutisme est très graphique et j'ai eu plaisir aussi à retrouver tous ces témoignages par les photos, les dessins, qui disent, qui racontent aussi une histoire en eux-mêmes.
D'ailleurs, la couverture à ce sujet, je trouvais vraiment bien choisie et belle, parce qu'on voit donc cette photo en noir et blanc de ces scouts. Alors, je sais plus de quand elle date, cette photo, mais on voit,
50.
Voilà, c'est ça, on voit bien que c'est les années 50, c'est un tir à la corde. Et puis, il y a votre titre et en dessous, une photo de tir à la corde, mais là, on est dans les années 2000, qui est en couleur, et ça se répond bien, on voit qu'il y a vraiment vraiment, il y a vraiment un lien et une histoire qui se suit hein, du scoutisme. D'ailleurs, c'est un des mouvements de jeunesse peut-être les plus anciens dans toutes vos recherches. Est-ce que c'est le mouvement de jeunesse le plus ancien ? Ou est-ce qu'il y en a d'autres qui sont parallèles ?
C'est l'un des plus anciens en tant que mouvement. En tant que regroupement de jeunes, c'est pas le plus ancien, mais disons le mouvement, c'est-à-dire à la fois une volonté éducative de mettre en mouvement les jeunes et non plus qu'ils soient simplement récepteurs d'une éducation, mais qu'ils participent à leur propre éducation. C'est sans doute l'un des plus anciens. Si on prend la naissance du scoutisme en 1907, date un peu canonique de l'intuition du fondateur anglais Baden-Powell, que ce soit l'acclimatation en France, en fait, dès 1909-1910, il y a des unités scouts et guides, donc plutôt scouts d'ailleurs, en France, et la naissance des deux mouvements que j'évoque plus particulièrement, les scouts de France et les guides de France, respectivement en 1920 et 1923. C'est vrai qu'il y a peu de mouvements, après il y a tout un tas de mouvements qu'on appelait dits d'action catholique, qui sont créés comme la JOC, la jeunesse ouvrière chrétienne, hein, qui est créé à la fin des années 20. C'est vrai qu'on peut dire que le scoutisme en général et les scouts et guides de France plus particulièrement sont parmi les plus anciens des mouvements.
Alors si je reprends un petit peu le déroulé de votre livre qui évidemment reprend le fil du temps, hein, c'est ce qu'il y a de plus logique. Donc il y a cette première partie, bâtir la cité scout, où il y a un peu ce temps de fondation donc dans ce chapitre 1 et puis ce que vous nommez le plein jeu, là, c'est vous déroulez un petit peu la pédagogie et ce qui nourrit les racines du scoutisme et du guidisme, et puis ensuite ce temps de la guerre. Si vous pouviez rappeler les intuitions de départ du scoutisme et du guidisme, et peut-être aussi peut-être leurs différences de départ, enfin, ce qui les rassemble et ce qui diffère.
Oui, alors, ce qui les rassemble, hein, c'est la méthode de Baden-Powell, c'est-à-dire l'éducation des jeunes par les jeunes, la progression personnelle, les rassembler dans des équipes de 6 à 8 jeunes. Au départ, les deux mouvements sont plutôt pensés pour la tranche d'âge de 12-17 ans. C'est le jeu qui est au cœur des activités. C'est également la nature, on l'a déjà dit, hein, partir camper, le campisme étant éducatif, hein, puisqu'il permet de prendre des responsabilités, d'éduquer le côté pratique. Hein, tout ça est dans les deux mouvements. Les scouts de France, on met l'accent sur le jeu, l'imaginaire du jeu, ce qu'on va appeler le plein jeu, en développant notamment hein, des grands jeux, des rallyes de 2-3 jours, qui sont pour eux éducatifs, avec un imaginaire de plus en plus construit, notamment à partir des années 30, avec toute une gamme de romans scouts que la collection Signes de Piste, à partir de 1937, exprime assez bien. C'est aussi donner véritablement un sens catholique au mouvement, faire des chrétiens fiers de leur foi et de futurs chrétiens, en fait catholiques, engagés dans la société. Pour les filles, l'intuition, c'est parce que les fondatrices sont très marquées par ce qu'on appelait le catholicisme social, c'est-à-dire de voir tout de suite l'engagement social que le catholicisme fonde et propose. Et donc elles sont très marquées par ça, c'est-à-dire de préparer les jeunes filles à un engagement au-delà de leur rôle qu'il était un peu imposé par la société à l'époque, était d'être des mères et des épouses. Et donc les guides de France sont presque plus modernes que les scouts de France, dans la mesure où elles proposent aux filles de sortir du rôle que leur assigne la société à l'époque, pour être donc des jeunes filles engagées dans la société. C'est lié aussi au fait que Marie Diemer ou Albertine Duhamel sont elles-mêmes très engagées déjà dans la société. Et puis elles sont peut-être un peu moins cléricales, parce que finalement, il y a beaucoup d'aumôniers chez les scouts de France, et chez les guides de France, la présence des aumôniers, il y en a, mais leur statut est moins important que ce que les scouts de France leur confèrent.
C'est intéressant de relire et de retourner comme ça à la fondation. On sent bien, en fait, par la suite, probablement, que ça va bien se compléter, finalement.
Oui.
Quand ils vont se réunir, je ne sais plus la date exacte, mais quand les scouts et guides de France vont se réunir en un seul mouvement, est-ce que chacun va réussir à retrouver un petit peu ces deux identités qui se complètent ?
Alors justement, c'est ce qui peut-être déjà a empêché un premier rapprochement dans les années 70.
Ouais.
Les deux mouvements ont essayé de se rapprocher, ça a été compliqué, le rapprochement qui a lieu donc en 2004 et qui donne naissance aux scouts et guides de France, effectivement se complète assez, on le voit bien dans le fait que par exemple pour les pédagogies, ils n'ont pas voulu trancher entre l'une ou l'autre. Et donc, très pratiquement, le savoir-faire qui était plutôt mis en avant chez les scouts et le savoir-être qui était plutôt mis en avant chez les guides vont être repris dans ce mouvement des scouts et guides de France à partir de 2004. Et puis également la volonté de conserver cette ligne de force qui est que garçons et filles sont différents et complémentaires.
Là, on voit bien, il y a un côté, ce dont vous parlez dans votre livre, de s'adapter un peu au monde qui bouge. Alors, ça, c'est plutôt l'intitulé de votre partie 2, hein, entre 45 et 85. Mais on voit que ça continue, évidemment, dans les années d'après. Comment ce mouvement de jeunesse évolue par rapport à d'autres mouvements? Est-ce que c'est le fait de, à la fois, garder son identité et d'être à l'écoute, en fait, du monde, qui fait que le scoutisme continue à attirer en fait aujourd'hui?
Oui, sans doute. Cette capacité, alors c'est pas vrai de tous les mouvements scouts catholiques. Mm-hmm. Certains ont préféré conserver une tradition, mais ils attirent aussi. Donc ça veut dire qu'ils répondent aussi à une attente. Pour les scouts et guides de France, et en fait c'est ancien puisque ça commence juste après la Seconde Guerre mondiale. L'idée est que le scoutisme doit aussi s'intéresser à la société et pas seulement lui tourner le dos en allant camper dans la nature, loin de là où la vie sociale se construit et évolue. Et donc cette volonté de garder la tradition, le fondement de la méthode et en même temps l'adapter aux évolutions sociales qui concernent les jeunes, on le retrouve depuis les années 50-60. Alors aujourd'hui, c'est peut-être ce qui permet aux scouts et guides de France de répondre à des attentes à la fois éducatives, relations garçons-filles, rapport à la nature, et en même temps d'être suffisamment proche de la culture d'un certain nombre de jeunes. Pas de tous en fait, hein, il faut bien le dire aussi, mais d'un certain nombre de jeunes. Et donc c'est sans doute ce qui fait son succès. Ce qui fait aussi son succès aujourd'hui par rapport à d'autres mouvements qui ont disparu, périclité, c'est le fait qu'il ne soit pas politisé et je dirais neutre politiquement. Et de fait, il a traversé les périodes et les crises qui ont pu affecter la jeunesse, je pense notamment dans les années 70 où certains mouvements trop politisés ont finalement déçu des jeunes qui ne s'y retrouvaient plus.
L'aventure par nature, 100 ans des scouts et guides de France. Charles-Édouard Arang, c'est vous qui avez écrit ce beau livre. Merci beaucoup.